Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie, merci pour votre fidélité à cette émission d'un jour dans l'histoire. Je suis heureux de consacrer cette émission à un empereur, l'empereur Tibère. Et pour évoquer ce personnage, je reçois Emmanuel Lias. Emmanuel Lias, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un ancien élève de l'école normale SUP et agrégé d'histoire. Vous avez enseigné l'histoire en Sorbonne, au Mans, à Valenciennes et à l'université Marc Bloch, hein, Strasbourg. Et vous avez travaillé à l'occasion de votre thèse sur le Principat et son fondateur, l'utilisation du souvenir d'Auguste sous ses successeurs de Tibère à Trajan. Comme nous allons le voir d'ailleurs, le souvenir d'Auguste est très présent sous le règne de Tibère. La première chose qui m'a frappé au fond dans votre biographie, c'est que alors vous ne cherchez pas à juger l'homme. Voilà. En revanche, ce que vous faites, c'est une réelle mise au point sur le ton de l'historiographie et des sources. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire tout d'abord sur ces fameuses sources ?
Oui, donc je n'ai pas cherché, comme vous l'avez bien vu, à juger l'homme, parce que c'est toujours assez vain. On n'écrit pas, à mon avis, une biographie pour déterminer si le personnage était un bon ou un méchant. Donc là, Tibère est considéré par les sources très généralement comme méchant. Le jeu pourrait consister à montrer qu'en fait il est bon, mais c'est totalement vain, puisque nous ne savons de Tibère que ce que nous en disent les sources, comme de tout personnage historique. Donc oui, j'ai essayé de comprendre comment les sources présentaient Tibère, éventuellement pourquoi, en les comparant. Donc la particularité de Tibère, ce qui fait aussi son intérêt, c'est que nous avons un grand nombre de sources sur lui. Enfin, un grand nombre à l'échelle de l'histoire ancienne. Évidemment, pour un contemporanéiste, ce serait ridicule, mais il faut savoir, on l'oublie trop souvent, que nous savons fort peu de choses, en fait, de l'Antiquité romaine. Par exemple, sur l'empereur qui, avec Tibère, détient le record du plus long règne, Antonin le Pieux, au siècle suivant, on ne sait pratiquement rien, parce qu'on a juste de lui une biographie très courte, écrite plusieurs siècles ensuite. Oui. Donc, Tibère, il se trouve que un certain nombre d'auteurs en ont parlé et qu'ils ont tous été à peu près conservés, dont les plus grands historiens de Rome de la période, Tacite bien sûr, Dion Cassius qui est beaucoup moins connu, qui a écrit en grec deux siècles après. Du point de vue de l'histoire ancienne, ça n'est pas encore un très grand écart, le peu de choses dont nous disposons. Nous avons aussi une vie de Suétone, plus pas mal d'autres choses, je ne vais pas.
Il y a évidemment l'archéologie, hein, vous parlez à un moment des pièces pour voir si le souvenir de Tibère perdure après sa mort.
Oui, donc ça c'est une source qui est assez constante sur les princes romains, les monnaies, donc nous en avons sur Tibère comme sur tous les autres finalement. Sur ce point il est moins original, mais il y en a un certain nombre pour qui les monnaies sont pratiquement la principale source, ça n'est pas le cas de Tibère. Bien, quand il s'agit des monnaies de Tibère lui-même, elles montrent les thèmes qui ont été mis en valeur, avec toujours un léger doute, parce que on ne sait absolument pas comment les thèmes des monnaies étaient choisis. Les sources ne disent rien là-dessus, donc ce qu'on constate, c'est que les thèmes des monnaies sont très variés, ce qui n'est pas le cas à toutes les époques, donc ça semble indiquer qu'on y prêtait attention. Mais qui décidait ? Donc on sait qu'on a un écho des thèmes, disons, de propagande de Tibère à travers ces monnaies, mais on ne sait pas si toutes les hypothèses sont possibles. Est-ce qu'on allait apporter à Tibère chaque pièce de monnaie et qu'il disait « ça va pas, vous mettez telle légende, c'est possible, on n'en sait rien ». Est-ce que c'était, bon c'est quand même plus vraisemblable, des proches aides de Tibère qui décidaient, ou alors est-ce que c'était le gars au fond de l'atelier monétaire qui se disait « je vais mettre telle image », certains le soutiennent, et pourquoi pas. Mais enfin, ça montre une ambiance quand même.
Alors justement, vous avez utilisé un mot qui est un mot que j'aime beaucoup, c'est hypothèse. Et c'est vrai que tout au long de votre biographie, il y a énormément de moments où on ne peut pas trancher. Et j'allais dire, cela nécessite un effort de l'intelligence que d'essayer de comprendre, tel un enquêteur, ce qui a pu se passer, ce qui aurait pu se passer, ou quelle est la thèse la plus probable sur les différentes orientations des sources.
Oui, effectivement, quand on a deux sources qui nous disent quelque chose de contradictoire, on peut difficilement faire autre chose qu'en prendre acte. Je crois qu'il faut résister à la tentation de trancher absolument. Dans certains cas, il y a une hypothèse qui est plus probable, voire beaucoup plus probable, mais on ne peut jamais dire c'est vrai ou c'est faux, contrairement à ce qu'on croit spontanément. J'aime mal dire, le domaine de l'historien, ça n'est pas le vrai, c'est le vraisemblable. Mmh. Et pour moi, un livre d'histoire, c'est un livre qui montre comment on écrit l'histoire, comment on essaye d'écrire l'histoire, en sachant qu'une fois qu'un fait a eu lieu, il disparaît, il n'y a plus que des sources qui en parlent, voire pas de sources du tout.
Mmh. Alors, entrons dans la vie de ce personnage. Vous dites que c'est un enfant de la guerre civile. Tibère est un personnage qui est issu d'une famille prestigieuse ?
Oui, c'est une des plus grandes familles romaines, dont on connaît de nombreux membres à travers toute la première partie de l'histoire de Rome. Donc, dès l'époque la plus ancienne, qui est assez largement légendaire, mais ça nous ramène à ce que nous disions plus haut, on peut constater que les sources ne sont pas très claires sur la période ancienne. On ne sait pas exactement ce qui est vrai et faux. Mais donc, pour ses contemporains, en tout cas, la famille de Tibère était présente pratiquement aux origines de Rome, parmi les plus grands personnages. Elle a donné un certain nombre de personnages célèbres. Le plus célèbre est Appius Claudius Caecus, célèbre entre autres parce qu'elle a donné son nom à la fameuse voie appienne en 312 avant Jésus-Christ. Donc oui, c'était vraiment une des familles qui dominait Rome depuis des siècles.
Alors c'est une famille proche du prince Auguste. Hein. Nous sommes en état de monarchie, c'est une monarchie, hein, c'est ce que vous dites, c'est le principat. Est-ce qu'on peut le qualifier d'empereur, malgré tout, c'est un terme que vous n'utilisez quasiment jamais ?
Ça, c'est un choix, c'est une question compliquée et insoluble, c'est surtout une affaire de convention.
Oui.
Comment expliquer ça simplement ?
Parce qu'on parle de l'empereur Auguste, on parle de l'empereur Tibère, or vous, vous utilisez à dessein le terme de prince.
Oui, c'est un choix historiographique. Disons que le problème, c'est qu'il y a une contradiction entre l'étymologie et l'évolution des mots et le sens qu'avaient les mots en latin. C'est toujours le problème à cette distance. C'est-à-dire qu'on peut parler d'empereur Tibère si on considère que le mot français empereur traduit le mot latin princeps, puisque le terme, pour les Romains, c'était princeps, qui signifiait tout simplement le premier, d'ailleurs. Donc, quand Auguste prend ou reçoit le titre qui n'est pas officiel de princeps, ça signifie qu'il est le premier dans la cité romaine.
Oui.
Et d'autre part, parmi les nombreux titres qu'il porte, il y a celui d'impérator, qui était en fait le titre qu'on donnait à un chef militaire victorieux quand il avait mérité le triomphe. Donc, avant le principat, c'est un titre assez répandu, mais dont l'usage est très réglementé. À partir d'Auguste, il est à peu près réservé au prince ou à l'empereur et à sa famille. Auguste en avait fait son prénom, ce que Tibère ne reprend pas d'ailleurs, mais ce que tous les empereurs ou les princes, à partir de Vespasien, feront à leur tour. Et finalement, donc, on est passé de princeps à imperator pour désigner la fonction, et c'est le sens que ça a pris au cours du Moyen-Âge, puis en français moderne.
En fait, c'est le début de votre introduction. Vous montrez que c'est un personnage qui s'est exilé à trois reprises. Et le premier de ses exils, c'est quand il est jeune, du fait des choix politiques de sa famille.
Oui, de son père. Enfin, politique et militaire en période de guerre civile.
Et pourtant, il revient auprès d'Auguste. Tibère retourne auprès d'Auguste. Quelle est sa place auprès d'Auguste ?
Eh bien, elle a beaucoup changé. Donc, bon, nous parlons du premier exil. Il a un an et demi. Donc là, il suit son
père. Il n'a pas conscience.
Oui, quand vous dites qu'il s'est exilé, on l'a exilé.
On l'a exilé.
Il accompagne ses parents, donc, parce que son père était dans le mauvais camp dans une des nombreuses guerres civiles, la guerre de Pérouse, contre celui qui n'est pas encore Auguste, qui est à l'époque le fils de César, Octavien, disons.
Oui.
Et donc, son père prend la fuite et l'emmène avec lui. Après, la paix vient, donc, le père de Tibère, qui s'appelait comme lui d'ailleurs, Tiberius Claudius Nero, peut rentrer à Rome avec sa famille. Et à partir de ce moment-là, son père semble avoir arrêté toute action politique. En tout cas, on n'en a aucune trace. Et le coup de théâtre qui rapproche Tibère du futur Auguste, c'est qu'il y a apparemment une histoire d'amour entre la mère de Tibère, Livie, et le maître de Rome, Octavien, futur Auguste. C'est présenté comme tel par les sources, en tout cas, et comme je le dis, on ne voit pas quel intérêt politique pouvait avoir Octavien à faire un tel scandale. Il faut croire qu'il était sincère. Et donc, Tibère, de fils d'un vaincu, se trouve beau-fils d'un des vainqueurs de l'époque. Et c'est comme ça, en fait, c'est le début de sa carrière, si on peut dire.
Enfin, oui, c'est-à-dire que cette histoire d'amour lui permet d'être dans l'entourage et donc, au fond, d'avoir un avenir politique et même la possibilité de, plus tard, devenir le princeps, le premier.
Oui, c'est là l'origine. Après, il y a eu de nombreux détours parce qu'à Rome, les fonctions politiques sont largement et presque exclusivement héréditaires. Mmh. C'est quelque chose qu'on perçoit assez mal souvent pour ce qui est de la période avant Auguste, parce que bon, les fonctions politiques à Rome sont données par l'élection, par l'Assemblée du peuple, pour faire simple.
Oui.
Mais le fait est que l'Assemblée du peuple élit presque systématiquement des gens dont les ancêtres ont déjà été élus. Donc il y a une hérédité des fonctions, et qui continue à partir d'Auguste, à part que la différence étant qu'à partir d'Auguste, il y a une famille qui est dominante, celle d'Auguste. Donc ça, bon, c'est le premier point, hérédité de fait des fonctions politiques. Et le deuxième point, qui en revanche distingue Rome de ce qu'on connaît au Moyen-Âge et à l'époque moderne, c'est que quand un politique romain n'a pas d'héritier naturel, il en cherche un autre par l'adoption. Et c'est comme ça que Tibère arrive finalement à devenir le fils d'Auguste, après de longs détours, parce que...
Il y a des histoires de famille incroyables tout au long du livre.
Oui, mais donc Auguste cherche un héritier, et donc quand on cherche à adopter, on cherche en général à proximité. Donc le fils du premier mariage de sa femme était bien placé sur la ligne de départ, disons.
Oui. Alors, c'est un personnage comme, bien évidemment, il est près du pouvoir. Hein? On ne peut pas, j'allais dire, avoir d'avenir politique dans la Rome impériale à partir du moment où on ne s'engage pas dans la carrière militaire. Et donc, il y a un engagement militaire de la part de Tibère. Mm-hmm. Est-ce que c'était un grand chef militaire, en tous les cas, quand il est jeune?
Alors, de toute façon, ça n'est pas propre à la Rome d'Auguste. Toutes les carrières politiques à Rome passaient par des carrières militaires et réciproquement. Mmh. Il n'y avait aucune distinction, c'est-à-dire que les chefs des armées étaient les magistrats de la cité. Ça, c'est une constante. Ça n'évolue que bien des siècles après. Donc, est-ce que Tibère était un grand chef militaire? Je vous dirais apparemment oui. Mmh. Enfin, le seul critère pour juger un chef militaire, c'est le succès. Et il a remporté un certain nombre de succès. Il a donc commencé sa carrière militaire sous les ordres d'Auguste en Espagne. Tout de suite après la fin des guerres civiles, Auguste est allé pacifier l'Espagne, qui était conquise par les Romains depuis très longtemps, depuis la guerre contre Hannibal, donc à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, mais qui n'avait jamais été vraiment pacifiée. Et de ce point de vue-là, les guerres civiles n'avaient rien arrangé, parce que pendant que les Romains étaient occupés à se battre entre eux, certains provinciaux en avaient profité pour reprendre une certaine indépendance. Donc Auguste part pacifier l'Espagne et il emmène Tibère avec lui comme membre de son état-major. Et très tôt, Tibère et son frère cadet Drusus sont chargés de grands commandements militaires par Auguste. Parce qu'on cherche d'abord dans sa famille, donc là c'est encore une question de famille, Auguste confie les commandements militaires importants au fils de sa femme. Et donc Tibère mène des campagnes qui poussent la frontière de l'Empire romain jusqu'au Danube. Mmh. Et ensuite, après la parenthèse de l'exil de Rhodes, dont nous parlerons certainement, il reprend ses fonctions comme chef militaire, là pour défendre Rome contre des gens déjà soumis mais révoltés. Puis ensuite, sur la frontière du Rhin, après le désastre de Varus qui marque la fin du règne d'Auguste. Donc c'est un chef militaire actif qui manifestement remporte des succès. On n'a aucun moyen de juger de sa science militaire.
Oui, oui.
Le seul militaire romain dont nous puissions juger véritablement en termes militaires, c'est César.
Oui.
parce que nous avons une source, et encore avec un certain doute, puisque c'est lui qui a écrit La Guerre des Gaules, pour raconter comme il était un bon chef militaire.
Alors entre ces campagnes, vous venez de le dire, il y a cet exil à Rhodes. Pourquoi cet exil à Rhodes? C'est ce que nous allons voir après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'empereur Tibère, au prince Tibère. Je reçois Emmanuel Lias, historien. Emmanuel Lias, vous venez de publier aux éditions Talendier, donc une biographie de ce prince romain. Alors, étonnamment, Tibère, alors qu'au fond, il a les faveurs du pouvoir, eh bien, part en exil à Rhodes. Est-ce qu'on sait pourquoi il part en exil à Rhodes? D'autant plus que il est assez ambigu au moment de son exil à Rhodes, parce que, je vous cite, vous dites « il ne supportait ni d'être traité en simple particulier, ni qu'on lui donnât la considération revenant à son rang ».
Ça, c'est pendant son exil, oui. Donc, cet exil, enfin, ce départ pour Rhodes, d'abord, l'exil vient ensuite, a été un mystère dès l'Antiquité. Donc, les auteurs qui nous sont parvenus accumulent les hypothèses. Et donc, d'une part, ça avait un côté absolument incroyable, quelqu'un qui est, disons, le numéro 2 du régime, qui tout d'un coup laisse tout tomber et décide d'aller vivre à l'autre bout de la Méditerranée en simple particulier. Voilà. D'autre part, passer la surprise, quand on cherche les bonnes raisons, enfin les raisons en tout cas qu'il pouvait avoir de faire ça, on en trouve un très grand nombre. Il est à peu près certain que c'est lié au problème de la succession d'Auguste, et de ses complications, et c'est lié aussi au caractère de Tibère.
Oui.
Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve après. Manifestement, Tibère était quelqu'un qui avait tendance à tout laisser tomber quand les choses n'allaient pas comme il voulait. Et c'est sans doute ce qu'il a fait. Donc, la cause qui semble la principale, c'est que Tibère, à ce moment-là, voit la succession d'Auguste lui passer sous le nez. Donc, comme nous le disions tout à l'heure, le principe est l'hérédité, et il y a un autre principe aussi, ça n'est pas comme pour les rois de France, c'est que le successeur doit être capable de prendre la succession. Donc il y a une question d'âge aussi. Et c'est ce qui semble expliquer le changement au moment où Tibère va partir pour Rhodes. Auguste n'avait pas de fils, il avait une fille, Julie, qu'il avait mariée, enfin il l'a mariée à peu près à tout le monde, mais en deuxième noce, je crois, il l'a mariée à son fidèle adjoint Agrippa, et de ce mariage sont nés deux fils, puis un troisième, des deux aînés, Caius et Lucius, qui sont donc les petits-fils d'Auguste, et qu'Auguste a adoptés. C'étaient ses petits-fils, il en a fait ses fils, et manifestement, son désir était de voir l'un des deux lui succéder. Donc Tibère était le numéro 2, mais il n'était plus le successeur.
Oui.
Caius est né en 20 avant Jésus-Christ et Lucius en 17.
D'accord.
Donc tant qu'ils étaient enfants, si Auguste venait à mourir, il était clair que la place était pour Tibère.
Oui, oui.
Là, dans ces années, Caius l'aîné arrive à l'âge adulte et commence à prendre une place encombrante pour Tibère. Donc Tibère se trouve progressivement réduit de numéro 2 et successeur à numéro 2 provisoire, avec une grosse incertitude sur la suite. Apparemment, ça a été son problème principal.
Est-ce qu'il y a aussi ces rapports avec Auguste? Parce que vous le montrez d'ailleurs, après son retour de campagne militaire, Auguste refuse le triomphe que normalement on accorde aux chefs de guerre victorieux.
Alors, sur ce point précis, je ne pense pas que ce soit là le problème. C'est un petit jeu qui est caractéristique d'Auguste, puis d'à peu près tous les princes qui se succèdent, c'est-à-dire je refuse les honneurs pour montrer que je suis modeste. Sachant que, évidemment, on ne peut pas refuser tout le monde, tout le temps, ce serait pas gentil. Donc on en refuse quelques-uns et on accepte les autres. Donc Auguste a refusé le triomphe à Tibère la première fois qu'il lui a été voté par le Sénat, mais pour mieux l'accepter, la deuxième, pour marquer une progression. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est de leur rapport privé, là, il faut avouer qu'on n'en sait rien. À quel point est-ce qu'ils ont pu se dégrader? Disons que Auguste avait une nette préférence pour ses fils adoptifs et petits-fils naturels par rapport aux fils de sa femme, qui était logique. Tibère l'a sans doute mal pris. Est-ce que ce qu'on sait par les sources, c'est que Auguste s'est opposé au départ de Tibère? C'est-à-dire que quand Tibère a dit « j'arrête tout, je vais vivre en Sainte particulière à Rhodes », Auguste lui a répondu « pas question, j'ai besoin de toi ». Et Tibère, à ce que nous disent les sources, a dû faire une sorte de grève de la faim pour obtenir le droit de partir.
Alors justement, on peut essayer de penser les choses en fonction de son retour. Quels sont les éléments qui l'amènent à revenir à Rome?
Donc, à revenir à Rome, c'est assez obscur aussi. L'important, c'est ce qui l'amène à revenir près du pouvoir. Et là, c'est toujours une question de succession. C'est que les deux petits-fils d'Auguste, Caius et Lucius, meurent successivement. Et donc,
il redevient
on est ramené ouais. au problème précédent.
Ouais.
Bon, ce qui est assez étonnant, c'est qu'Auguste les choisit à ce moment-là. Après, parce que donc...
Après tant de
temps. Il faut peut-être dire quelques mots. Donc, je vous ai dit que Tibère était parti contre l'avis d'Auguste, qui avait tout fait pour essayer de le retenir. Mais manifestement aussi, une fois Tibère parti, Auguste lui en a voulu, puisque... Donc le départ volontaire s'est transformé en exil, Auguste lui a interdit de revenir. Donc il semblait qu'Auguste, mécontent d'avoir été abandonné, ait fait une croix sur le rôle politique de Tibère. Et pourtant, c'est lui qu'il rappelle quand il se trouve sans héritier.
Alors justement, la succession, elle s'opère à la mort d'Auguste. De fait, Tibère prend cette responsabilité et décide d'accéder au pouvoir. Est-ce qu'il le fait à contre-cœur? C'est difficile de le savoir, là aussi.
C'est difficile de le savoir. Enfin, on peut avoir une certitude ou une quasi-certitude, en tout cas, pas totalement à contre-cœur. Quand quelqu'un ne veut pas prendre le pouvoir...
Il ne le prend pas.
Il ne le prend pas. Il lui était quand même assez facile de reprendre le bateau pour Rhodes si décidément ça ne lui plaisait pas. Donc, en particulier dans le récit de Tacite, il y a tout ce que Tacite présente comme une comédie de Tibère expliquant au Sénat que non, il ne veut pas succéder à Auguste. Donc, pour Tacite, c'est clair, c'est une comédie et une comédie absurde puisque Tibère a déjà tous les pouvoirs. Puisque entre son retour en grâce et la mort d'Auguste, il a progressivement reçu à peu près tous les pouvoirs d'Auguste. Donc tant qu'Auguste était vivant, ils étaient égaux ou presque égaux en droit formel, mais Auguste était quand même le patron, aucun doute. Mais là, quand Auguste meurt, Tibère se trouve automatiquement à la place d'Auguste, puisqu'il a tous les pouvoirs qu'avait Auguste et qu'il est désormais le seul. Et pourtant, il explique au Sénat qu'il ne veut pas, qu'il ne saura pas faire, et les sénateurs en sont réduits à le supplier d'accepter. Donc, ce que je pense...
Parce qu'il faut perpétuer le régime d'Auguste.
Ben parce qu'ils n'ont personne d'autre. Et puis, ils sont assez surpris. Pour eux, c'était évident. Et tout d'un coup, Tibère leur dit non, ça mérite réflexion, je ne sais pas. Donc, ce que je pense, moi, c'est que Tibère a voulu reproduire ce qu'avait fait Auguste après la fin des guerres civiles, en 27 avant Jésus-Christ, où Auguste, de la même façon, s'était fait supplier par les sénateurs d'accepter le pouvoir.
Alors ça, c'est très intéressant parce que, et c'est d'ailleurs un point que vous reprenez dans votre conclusion, et on sent l'ombre d'Auguste sur le règne de Tibère et un problème, je ne vais pas parler d'un problème identitaire, mais une difficulté pour Tibère à se situer, à inscrire au fond sa propre patte à son propre règne. Et il est constamment dans une sorte de miroir avec en face de lui, non pas Tibère, mais Auguste. Il est obsédé par son image.
Oui, c'est son problème. Comment succéder à Auguste? Alors, vous dites, oui, il n'a pas réussi à inscrire sa propre patte, mais on a l'impression que ce n'était pas ce qu'il voulait. Il voulait être le successeur d'Auguste, et cela seulement. Et ça ne lui réussit pas toujours. Par exemple, dans ce débat, je pense, moi, que ce qui domine, c'est la volonté de faire comme Auguste, mais c'est dans un contexte totalement différent. C'est-à-dire qu'il passe... Il rate totalement son coup et il finit par passer pour un hypocrite. Et cela lui arrive souvent. Tibère a toujours ce problème. Je veux être le successeur d'Auguste, mais je ne suis pas digne d'être honoré comme Auguste. Je ne vaux pas Auguste. En même temps, mais attention, personne n'est aussi bien placé que moi pour être le successeur d'Auguste. Donc c'est là-dessus qu'il y a un certain nombre de malentendus, avec ses contemporains sans doute, avec la postérité qui nous raconte sa vie. En tout cas, ça, on le constate, un prince qui affiche toujours une grande modestie, mais qui en même temps ne supporte pas la contradiction. J'ai été frappé, je le dis en conclusion, par l'analogie qu'on pouvait faire là-dessus entre Tibère et Georges Pompidou.
Alors, on reviendra à la fin parce que j'ai une question bien particulière là-dessus. Donc, on voit bien dans quel état d'esprit il se présente. Bon, quand on arrive au pouvoir, au fond, le premier rôle de l'empereur ou du prince, c'est de défendre l'empire. Est-ce qu'à nouveau, il doit partir soit en conquête, soit en défense de l'empire ?
Non. Ça, c'est un point particulier. Chez Tibère aussi, c'est qu'il était, jusqu'aux toutes dernières années du règne d'Auguste, d'abord le chef militaire de la famille, et du jour où il succède à Auguste, c'est terminé pour lui. C'est-à-dire qu'il ne mène plus aucune opération militaire en personne. Mmh. Il laisse son fils adoptif Germanicus, son fils naturel Drusus, commander les armées, et même quand il semble y avoir péri, il l'exclut de quitter Rome. Et là, je pense qu'il y a aussi, encore une fois, ça n'est pas très varié, une volonté d'imiter Auguste, qui a très rarement commandé en personne, et plus du tout dans les dernières années de son règne. Mmh. La différence étant que Auguste n'était apparemment pas un chef militaire de goût, et ce qui est plus rare, il ne l'a jamais caché. C'est-à-dire que tout le monde sait que dans ses victoires des guerres civiles, c'est Agrippa qui a eu un rôle déterminant. C'est rare, ça, que quelqu'un qui emploie un autre pour faire le travail à sa place le laisse dire. Donc chez Auguste, c'était sans doute surtout une affaire de goût. Chez Tibère, non, puisqu'il a été principalement un chef militaire jusqu'en 12, son dernier tour à Rome est en 12, mais à cette époque-là, il semblait devoir repartir un jour ou l'autre. Du moment où il est prince, il reste à Rome et il laisse les autres commander sur place.
Alors, dans ce règne, donc, il y a cet aspect militaire, visiblement, vous présentez les premières années comme étant des années plutôt favorables, et il y a une coupure dans le règne de Tibère, c'est la mort de Germanicus. Alors d'abord, qui était Germanicus, et en quoi cette mort va en quelque sorte placer Tibère dans la bara et dans une forme, hein, vous le dites, hein, c'est le titre de votre chapitre, la crise.
Eh bien, Germanicus était le neveu de Tibère, naturellement, nous sommes toujours en famille, le fils du frère cadet de Tibère, Drusus. Et donc, en fait, s'il s'appelait Germanicus, d'ailleurs, c'est à cause des victoires de son père sur les Germains. On avait donné comme honneur, comme récompense pour ses victoires, à Drusus le droit d'appeler son fils aîné Germanicus, le germanique, le vainqueur des Germains. Et il a été inclus dans le dernier plan de succession d'Auguste. Donc, quand Auguste se trouve sans héritier naturel après les morts de Caius et Lucius, il rappelle Tibère, il l'adopte, mais il veut apparemment organiser sa succession aussi après Tibère. Et donc, il ordonne à Tibère d'adopter son neveu Germanicus. Ce qui est assez anormal, puisque, je vous l'ai dit, c'est une pratique courante chez les Romains d'adopter un héritier quand on n'a pas d'héritier naturel. La particularité, c'est que Tibère en avait un, qui s'appelait Drusus aussi. Il se donne toujours les mêmes noms dans les familles, ce qui complique les choses. Donc Drusus, neveu de Drusus, et oncle d'un autre Drusus. Donc Tibère avait un fils légèrement moins âgé que Germanicus, et il se retrouve avec deux fils, avec des rivalités possibles. Donc là encore, on ne sait pas pourquoi Auguste a fait ça. Est-ce qu'il trouvait, après les déboires qu'il avait eus, qu'un héritier, ça n'était pas suffisant, et qu'il fallait en prévoir au moins deux ? Possible. Est-ce que il était attaché à Germanicus et qu'il voulait le favoriser, possible aussi, quitte à faire des ennuis à Tibère. Est-ce que aussi il se disait que de toute façon Germanicus, vu sa parenté avec Tibère, aurait un rôle de premier plan à jouer, et donc qu'il valait le mieux le nommer héritier que le laisser dans une position incertaine. Toujours est-il donc que Germanicus est juridiquement le fils aîné de Tibère. Et de fait, donc, son héritier, s'il lui arrive quelque chose, il commande au moment de la mort d'Auguste les légions sur le Rhin. Tibère le confirme dans son commandement. Et il mène des campagnes extrêmement brillantes, apparemment, enfin reçues comme telles en tout cas, au-delà du Rhin, puis est rappelé à Rome par Tibère, donc certains pensent que c'est par jalousie, et envoyé en Orient. Et là, il meurt, et c'est tout le système de succession prévu par Auguste qui s'effondre avec la mort de Germanicus. Puisque ce qui était prévu, c'était l'harmonie dans la famille et la répartition des rôles. Tibère, successeur. Germanicus, successeur désigné de Tibère. Drusus, le fils naturel de Tibère, en retrait. Mais bon, soit second de Germanicus, soit successeur éventuel. Mais donc, il y avait une construction qui ne tient plus parce que la branche Drusus Germanicus se trouve éliminée. Et Tibère se trouve soupçonné d'avoir favorisé ça, en tout cas de s'en réjouir, parce que c'est son fils naturel qui en profite. Et là-dessus, il y a une accusation d'empoisonnement. Donc là, c'est le type même de choses sur lesquelles on ne peut avoir aucune certitude. La médecine légale n'avait pas les mêmes critères à Rome qu'aujourd'hui, et nous n'avons pas les rapports des éventuels médecins. Mais tout le monde est convaincu que Germanicus a été empoisonné. Et empoisonné, pas par n'importe qui, par celui qui était en quelque sorte son adjoint, un homme Pison. Germanicus était gouverneur, en gros, de tout l'Orient romain. Et Pison était gouverneur de la province la plus importante, la Syrie, choisie par Tibère. D'où l'idée que Tibère a choisi spécialement Pison pour nuire à Germanicus, et en fin de compte, l'empoisonner. Donc c'est une accusation qui pèse sur lui, et là aussi, on a toujours l'ambiguïté de son attitude, ses principes de modestie et de refus des honneurs qu'il applique, c'est-à-dire qu'il tient à expliquer que la mort de Germanicus est un grand malheur, mais qu'il faut se reprendre et penser à son devoir et ne pas en faire trop dans le deuil. Bon, ce qui serait très noble et ce qui aurait un grand succès si tout le monde était convaincu qu'il est vraiment affligé et qu'il retient son affliction. Mais là, du coup, tout le monde dit... Il ne veut pas pleurer Germanicus, il ne veut pas l'honorer suffisamment, c'est donc qu'il se réjouit de sa mort. Et ce qui complique le problème, qui est déjà compliqué, c'est que Germanicus laisse une veuve et des fils. Et des fils qui ne sont pas encore en âge d'avoir un rôle politique. Donc c'est Drusus, le fils de Tibère, qui se trouve en position de successeur désigné, mais avec les trois fils de Germanicus, qui sont jeunes, mais qui peuvent être une menace. D'autant plus que leur mère, la veuve de Germanicus, se distingue à la fois par sa naissance et par son caractère. Agrippine, la veuve de Germanicus, à ne pas confondre avec une Agrippine plus célèbre, la mère de Néron, en fait celle-là est la mère de l'autre, était la petite-fille d'Auguste, donc elle avait un lien direct par le sang à Auguste, que Tibère n'avait pas, et elle revendiquait ce rang et un rôle. Et donc, ses enfants étaient les arrière-petits-enfants d'Auguste et ses seuls descendants naturels. Donc, ça crée une opposition entre les deux branches de la maison qui, vraisemblablement, n'existait pas avant. Enfin, ça, on en discute. Mais moi, je pense que c'est vraiment la mort de Germanicus qui provoque la crise, avec Drusus qui se retrouve naturellement à la place de Germanicus et Agrippine qui ne l'accepte pas, parce qu'elle veut défendre les intérêts de ses fils pour l'avenir et les siens pour le présent.
Emmanuel Lias, nous nous retrouvons dans un instant. Entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Tibère. Je reçois l'historien Emmanuel Lias, auteur d'une biographie donc consacrée à l'auteur, une biographie parue chez Talendier. Nous avons laissé nos auditeurs sur cette crise créée par la mort de Germanicus. Je souhaiterais, Emmanuel Lias, faire un bond dans le temps et donc laisser les conséquences de cette crise. Mais en tous les cas, on a bien compris que c'est à partir de cette période que vraiment le règne de Tibère accumule les nuages. En 27, de manière complètement inattendue, Tibère, je ne vais pas dire s'exile à nouveau, mais en tous les cas, il fuit Rome, il s'en va. Alors, est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un exil? Il s'installe à Capri. Alors, il dirige toujours, il gouverne toujours, mais il est dans une attitude assez étonnante parce que, au fond, vous l'écrivez d'ailleurs, il dirige par correspondance.
Oui, c'est assez impressionnant.
Et ceci de 27 jusqu'à sa mort en 37, donc pendant 10 ans.
Pendant 10 ans, oui. Donc il faut quand même revenir un peu en arrière. Il y a une deuxième mort qui accélère la crise, après celle de Germanicus, c'est celle de Drusus. Donc on avait prévu deux successeurs possibles, les deux disparaissent. Et ça aurait pu être le moyen, la mort de Drusus, de réconcilier tout le monde, puisque les fils de Germanicus et d'Agrippine se trouvent à nouveau au premier plan. Mais apparemment, ils étaient arrivés à un tel point de détestation que ça n'a pas suffi et qu'au contraire, ça a aggravé la bagarre à l'intérieur de la famille. Donc Tibère se trouve sans héritier et sans perspective. Mmh. Enfin, sans héritier à son goût en tout cas, avec Agrippine qui est de plus en plus dans une position d'opposante. Et c'est à ce moment-là, effectivement, qu'il quitte Rome. Encore un départ mystérieux, un départ caché cette fois-ci, parce que bon, il n'était pas anormal que le prince quitte Rome pour se promener en Italie. Et c'est comme ça qu'il présente son départ, des temples à inaugurer en Italie. Seulement, il n'est jamais revenu. Il n'a jamais dit « j'ai quitté Rome pour ne plus y revenir ». Fréquemment, d'après les sources, pendant les 10 ans que vous avez évoqués, on annonce à Rome le retour de Tibère. Mais finalement, il meurt sans avoir remis les pieds à Rome. Donc là aussi, enfin, on retrouve ce que je vous disais à propos de Rhodes, l'impression que c'est dans son caractère de s'en aller quand les choses ne vont pas. Enfin, on juge un calcul politique à son résultat. Et du point de vue du résultat, ça ne semble pas avoir été un mauvais calcul, puisque on a ce trait assez exceptionnel d'un gouvernement effectivement à distance pendant 10 ans, ce qui montre l'attachement de presque tous les Romains au régime et à la personne de Tibère. Malgré son absence, il n'est jamais
remis en cause.
Il n'est jamais déstabilisé, ouais. Jamais. Et quand celui qui avait sa confiance pour gouverner Rome à Rome sur place, ces gens se tourne contre lui, ou est soupçonné de se tourner contre lui, mais enfin. Donc, quand il apprend que ces gens veulent se tourner contre lui.
Qui était le préfet du
voilà,
prétoire.
Voilà, qui était le chef, donc, de la seule force armée à Rome. Tibère de Capri envoie l'ordre de destituer ces gens et de le mettre en jugement, ce qui voulait dire le mettre à mort à coup sûr. Et l'ordre est exécuté.
C'est ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, au fond, même si c'est un personnage qui a en quelque sorte peur du pouvoir, vous le montrez bien, il reste malgré tout celui qui stabilise les institutions.
Oui, c'est le rôle du princeps à Rome. Et évidemment, cela doit être compris à la lumière de ce qui précède. On est toujours étonné que les Romains, qui professaient une haine par principe de la royauté et de la monarchie, et accepter quelqu'un qui n'était pas un roi en titre, mais qui était un monarque. Seulement, entre-temps, il y a eu les guerres civiles.
Donc c'est le souvenir des guerres civiles qui permet cette stabilisation en dehors, j'allais dire, du règne tranquille. Enfin, quand je dis tranquille, entendons-nous bien, c'est un règne dans lequel il n'y a pas vraiment d'initiative, que ce soit sur le plan militaire ou autre.
Oui, disons que, manifestement, la plupart des Romains ont acquis la conviction que le choix n'était pas entre la monarchie et l'ancien régime, qu'on appelle républicain, nous, mais entre la monarchie et la guerre civile. Ils préfèrent la monarchie. Donc, il y a un prince légitime, ne le contestons pas.
Et pourtant, encore une fois, vous utilisez un titre assez évocateur, vous dites « l'immobilisme comme doctrine, point d'interrogation », et vous lancez « Tibère ne bâtit rien », et sur les frontières, eh bien, il n'est pas plus conquérant que bâtisseur.
C'est l'idée de Tibère, gérer l'œuvre d'Auguste. Mais parler d'immobilisme, évidemment, à notre époque, où ce qu'on attend d'un homme politique, c'est qu'il bouge beaucoup dans tous les sens, de préférence devant les caméras, ça semble une condamnation.
Ouais.
Il ne faut pas oublier que les Romains raisonnaient très différemment. Le conservatisme, à Rome, ça n'était pas mal vu. Le conservatisme comme doctrine. Et au contraire, il fallait conserver les souvenirs des ancêtres. Il y a d'ailleurs une expression en latin qui est très difficile à traduire, c'est res novae, littéralement les choses nouvelles. C'est une accusation qui est souvent lancée contre des personnages.
Vous êtes un rénovateur.
Voilà, non, mais on les accuse de cupiditas novandi res. Littéralement, désir de changer les choses. Alors que, bon, aujourd'hui, quand on veut être candidat à n'importe quoi, même si on n'en pense pas un mot, il faut dire « je vais changer les choses ». À Rome, c'était l'inverse, même quand on voulait les changer. Donc, de ce point de vue-là, Tibère n'est pas forcément dans une mauvaise position, sauf évidemment sur l'aspect militaire.
Alors, il y a un autre conservatisme, vous le présentez également, c'est le conservatisme religieux.
Oui, qui est encore plus fort. Parce que les Romains étaient conservateurs naturellement, mais prêts à parfois s'adapter. Mais ils considéraient, si j'ose dire, que leur dieu était encore plus conservateur qu'eux et que tout changement les contrarierait. Donc le principe de la religion romaine, c'est en théorie, reproduire toujours les mêmes rites, parce que c'est ceux-là dont on sait qu'ils plaisent aux dieux. Et surtout, ne rien changer.
Alors, il y a en fait une question que vous vous posez aussi, et qui est assez étrange en elle-même, c'est est-ce que Tibère fut sanguinaire malgré lui ? Est-ce que cet immobilisme devait passer finalement par la mort d'une partie de son entourage ? Et notamment d'Agrippine, si mes souvenirs sont bons.
Oui, je pose la question un peu brutalement, sanguinaire malgré lui, parce que bon, c'est l'image qu'il a laissée. Et effectivement, quand on prend Tacite, Suétone, surtout Tacite, mais aussi Suétone et Dion Cassius, on trouve un nombre impressionnant de condamnations à mort, ou à l'exil sans retour, oui, dans sa famille. Parmi les sénateurs et parmi d'autres personnages importants de la cité. Donc effectivement, ça fait un palmarès assez lourd. Bon, on peut dire aussi que Tibère est un peu désavantagé par le fait que nous ayons beaucoup de sources sur lui. Il y en a d'autres qui en ont peut-être fait à peu près autant, mais qui n'ont pas laissé de traces. Mais là, effectivement, ce que j'essaye de montrer à partir de Tacite, et c'est intéressant parce que c'est Tacite qui pourtant n'aime pas Tibère, qui donne l'argument de la défense, sans le présenter jamais comme tel, mais c'est chez Tacite qu'on le trouve. C'est-à-dire, il semble net, quand on lit Tacite, que Tibère a été poussé à une répression toujours plus forte. Bon, là, vous parliez d'Agrippine. Dans le cas de sa famille, c'est peut-être un peu différent. Mais dans le cas des sénateurs et des premiers des citoyens romains, là encore, l'enjeu principal, c'est le souvenir d'Auguste. Et on sort pour cela une loi qui est la Lex de Majestate, la loi de majesté, qui définit un crime contre la majesté du peuple romain. Il ne faut pas traduire par lèse majesté, parce que c'est foncièrement différent.
Oui, c'est ce que vous disiez voilà, en début d'émission voilà, sur le sens des mots.
Voilà, oui. Donc on applique cette loi à Auguste, on considère que toute atteinte au souvenir d'Auguste est une atteinte à la majesté du peuple romain. Et il y a une particularité, enfin une particularité par rapport à aujourd'hui du système judiciaire romain, c'est qu'on n'a pas inventé le procureur de la République. Il n'y a pas d'organisme public chargé de poursuivre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait procès, il faut qu'il y ait dénonciation. Et quand il y a dénonciation, il doit y avoir procès si la dénonciation est jugée recevable. Donc, d'après ce qu'on lit dans Tacite, Tibère fait d'abord face à des initiatives privées, c'est-à-dire des délateurs qui viennent dire « j'ai vu un tel, n'importe quoi, cracher sur une statue d'Auguste ». Ça, je n'ai pas d'exemple, mais en revanche, d'après Suétone, qui exagère peut-être, quelqu'un a été condamné pour être allé aux latrines avec une pièce portant l'effigie d'Auguste sur lui, outrage à la mémoire d'Auguste, hop. Donc Tibère doit faire face à des dénonciations, et c'est de lui, parce que c'est lui qui coiffe toutes les institutions romaines, et les magistrats donc prennent leurs instructions chez lui, c'est lui qui doit dire, face à chaque dénonciation, on poursuit ou on ne poursuit pas. Avec toujours son problème. C'est-à-dire que s'il dit « on poursuit pour des broutilles », il se trouve dans une position de prince sanguinaire. S'il dit « on ne poursuit pas », tout le monde dira « c'est la preuve qu'il n'aimait pas vraiment Auguste ». Et on le voit glisser, enfin si on fait confiance à ce que dit Tacite, on le voit glisser, dans un premier temps, il refuse toute notion de poursuite. Avec une très belle formule, enfin qui est sans doute de Tacite, mais qui doit résumer la pensée de Tibère. Les injures des dieux sont l'affaire des dieux. Auguste est devenu un dieu, on l'injurie, il saura bien se venger. Avec une façon de retourner l'argument aussi, si vous pensez qu'Auguste a besoin d'aide, c'est que vous ne croyez pas vraiment qu'il est devenu un dieu.
Oui.
Parce qu'à Rome, il n'y avait pas de délire religieux. Donc ça, c'est sa première position. Très bien, Tibère. Bon, Tacite, je vois là une hypocrisie. Mais ensuite, et là on sent la pression qui monte, il établit une distinction. Les injures contre Auguste, on poursuit. Les injures contre moi, on ne poursuit pas. Et enfin, on voit qu'il a finalement laissé poursuivre les injures aussi contre lui. Donc je crois qu'il s'est vraiment laissé entraîner par une machine judiciaire qu'il ne contrôlait pas du fait du système des dénonciations et du fait de sa position instable dans l'opinion pour ce qui est de son rapport au souvenir d'Auguste.
Alors, nous arrivons, Emmanuel Lias, un peu au terme de cette émission. Je ne peux pas m'empêcher, quand j'ai reçu en service de presse, évidemment, votre ouvrage, Tibère, c'est l'époque de Jésus. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que vous relevez une anecdote très croustillante, c'est qu'au fond, c'est un personnage dont la mémoire va être condamnée par la postérité. Or, Tertullien, vers 200, dans son apologétique, relie en quelque sorte le règne de Tibère à la mort du Christ. Alors, bien évidemment,
plus que ça.
On ne peut absolument pas savoir. Enfin, ce n'est pas qu'on ne peut pas absolument pas savoir, c'est qu'on se dit qu'il était quasiment impossible que Tibère ait eu un quelconque contact avec un chrétien. En tous les cas,
En tous les cas, avec le Christ.
Oui.
Et sans doute, effectivement, avec un chrétien, c'est totalement improbable, puisque, bon, si on commence à s'interroger sur la date exacte de la mort de Jésus,
exactement.
Nous en aurons pour très longtemps.
Oui.
Mais, disons, entre 30 et 33, peut-être un peu avant, peut-être un peu après. Donc, c'est tout à la fin du règne de Tibère. Il est totalement improbable que le christianisme ait pénétré jusqu'à Rome, effectivement, avant sa mort, et encore plus que Tibère, qui n'était pas à Rome, en ait été averti. Les Romains ne découvrent vraiment l'existence des chrétiens à Rome que sous Néron. Mm. Mais effectivement, c'est quelque chose de tout à fait surprenant. Donc, Tertullien, qui est un auteur chrétien postérieur, dit que Tibère aurait été convaincu de la divinité de Jésus et qu'il aurait essayé de la faire reconnaître par le Sénat.
Un dieu parmi les dieux.
Un dieu parmi les dieux, apparemment, mais enfin, dans l'esprit de Tertullien, c'était peut-être carrément Constantin trois siècles avant. Enfin, Tertullien ne savait pas qu'il y aurait un jour Constantin, bien sûr. Mais la conversion de Rome au christianisme, bon, ça ne tient pas debout. Enfin, je disais qu'on ne peut jamais dire en histoire c'est vrai ou c'est faux. Là, on peut dire c'est totalement, extrêmement, absolument invraisemblable. Donc, on ne sait pas d'où Tertullien sort cette idée. Pour moi, ce qui m'intéresse uniquement dans le cas précis, c'est que ça montre que, encore à l'époque de Tertullien, Tibère n'était pas unanimement considéré comme un mauvais empereur, puisqu'un chrétien pouvait le prendre comme argument. Vous voyez, Tibère nous aimait bien. C'est ça qui m'a intéressé surtout. Pour le reste, alors, mystère total, comment ? Oui, je crois qu'on peut parler de Bobard. Comment ce Bobard est-il apparu ? Sinon, peut-être l'idée de l'alternance entre les bons et les mauvais. Donc, Néron était un mauvais. Caligula, le successeur de Tibère, était un mauvais, donc l'idée que son prédécesseur devait être un bon.
Alors, je reviens à l'image que vous donniez tout à l'heure. Vous avez osé, si je puis dire, comparer Auguste et Tibère et De Gaulle et Pompidou.
Oui. Bien, comme je le dis, donc en conclusion, j'ai été frappé en lisant un des livres de souvenirs de Michel Debré par une scène entre Pompidou et ceux qu'on appelait les barons du gaullisme, qui, en changeant les noms, pourraient se trouver, me semble-t-il, dans Tacite. Ben, Pompidou a eu exactement le même problème, il n'est pas le seul. On pourrait parler de Lénine et Staline aussi, de beaucoup d'autres, peut-être Louis XIV et Louis XV, même s'il y a une période de régence entre eux.
De Jean-Paul II et de Benoît XVI, moins peut-être.
Disons que c'est plus difficile s'agissant d'un règne en cours. Nous en reparlerons dans quelques années si Dieu nous prête vie.
Mais c'est pour montrer l'image de... Je cite souvent Benoît XVI à ce micro, parce qu'il fait partie de l'Académie des sciences morales et politiques. Il y a le gigantisme de Jean-Paul II, et un absolument médiatique, superstar mondial, et un intellectuel qui arrive au pouvoir, et qui est au pied d'un géant.
C'est vrai, mais là encore, pour Benoît XVI, c'est l'avenir qu'il dira. Jusque-là, il semble qu'il arrive bien à poser sa personnalité en respectant le souvenir de son prédécesseur.
Oui, mais, oui.
En revanche, c'est le problème de tout personnage qui succède à un grand homme, comment se poser par rapport à lui. Donc c'est plus ou moins réussi. Et effectivement, Pompidou a eu ce problème. Et bon, ce qui me frappe chez Pompidou, ce qui n'est pas le cas chez Staline, par exemple, je crois, par rapport à Lénine, c'est cette position... Je suis indigne de succéder au général de Gaulle. Il était bien meilleur que moi. Mais deux, mais personne n'est plus digne que moi, alors taisez-vous tous les autres. Ce qui est le meilleur moyen de se trouver entre deux chaises. Bon, en plus, avec cette analogie aussi, c'est que, oui, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais l'exil de Rhodes, ça a été un boulet pour Tibère pendant toute sa vie, parce que c'était la preuve qu'il n'avait pas toujours été le fidèle second Auguste. Et il y avait aussi des choses comme ça chez Pompidou, des moments qui venait contredire son image de fidèle second du général et successeur naturel, effectivement.
Eh bien, c'est sur cette image, Emmanuel Lias, que nous allons nous quitter. Je voudrais dédicacer cette émission à une personne qui est venue me voir un jour et qui m'a demandé davantage d'émissions sur l'histoire antique. Il y a plus de personnes qui travaillent sur la moderne et sur la contemporaine que sur l'antique et la médiévale. Donc, elle se reconnaîtra. Je voudrais lui dédier cette émission. Merci beaucoup, Emmanuel Lias.
Merci à vous.
Votre biographie, Tibère, une biographie parue chez Talendier. Merci et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.